L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Êtes-vous prêt à aller dans la parole de Dieu ce matin? Amen. Dieu est bon? Amen. Moi, je crois que nous sommes dans une saison où on va récolter beaucoup d'âmes. Amen. Gloire à Dieu. Une saison où on va récolter des âmes à la gloire de Dieu. Et ce matin, ce qu'on va voir, on va voir deux points. On va parler de l'évangélisation et on va parler également de la loi de l'honneur. Et vous allez voir, mais quel est le rapport? Et vous verrez bien. Mais on va commencer avec un mot de prière et par la suite, on va aller dans la parole. Père éternel, on vient devant toi. On te remercie encore une fois pour ta sainte parole. On te remercie aussi pour ton Saint-Esprit qui parle à ton Église. Seigneur, aujourd'hui, on veut choisir la foi. Tout ce qu'on entend, Seigneur Dieu, on veut vraiment investir notre foi dans ta parole afin qu'on puisse avancer. On te remercie à l'avance pour les vies transformées et pour les personnes qui vont être révolutionnées par ta parole. J'ai prié au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous inviter, venez avec moi dans 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. Vous pouvez juste vous préparer dans 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. Souvent, quand on mentionne le mot évangélisation dans l'Église, il y a deux réactions. Soit la crainte chez les chrétiens ou la honte. C'est souvent ça. Et ce matin, ce qu'on va voir, c'est juste une introduction à une série qu'on va commencer sur les lois du royaume ou la culture du royaume de Dieu. Et on veut toucher certains thèmes. Le Seigneur nous dirige et depuis un certain temps, le Seigneur a travaillé par son esprit et nous a donné des messages concernant le don de soi, comment on doit mourir à nous-mêmes et toutes ces choses-là, ces choses merveilleuses-là, pour que l'on puisse vraiment vivre dans la puissance de Dieu. Mais souvent, c'est le sentiment d'échec quand on parle de l'évangélisation. Les gens ont honte. Et si vous êtes, ce que je vous dis en ce moment, vous le ressentez vous-même personnellement, vous dites, ouais, c'est sûr que j'aimerais bien ça, évangéliser, mais je me sens dépourvu, je ne sais pas trop comment faire, j'ai honte parce que je ne le fais pas assez, il y a ci puis ça. Mais ce matin, ce qu'on veut faire, c'est vraiment changer notre façon de penser. Et pas juste dire « oui, je devrais le faire », puis voir l'évangélisation comme une corvée ou un devoir chrétien, mais voir simplement que nous sommes appelés à briller constamment tous les jours de notre vie. Et que ce ne soit pas un projet quelconque, là, on va aller évangéliser. Oui, il y a des moments comme ça. En Église, on peut dire stratégiquement, on s'en va dans telle communauté, on va aller envahir, on va aller faire des bonnes œuvres, on va aller briller pour Jésus. Oui, on peut faire des choses comme ça. Ça, on appelle ça de l'évangélisation ponctuelle, où c'est stratégique. Hein? On fait des bonnes œuvres qu'on planifie ensemble. Mais on ne devrait pas se limiter à ça. On devrait briller à chaque jour de nos vies. Amen. Et ceci dit, Dieu nous appelle à marcher dans la joie et dans la paix. Et quand on a un sentiment d'échec et de honte, c'est difficile d'être dans la joie et dans la paix. Mais ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est être transformé, encore une fois, par le renouvellement de notre intelligence. Amen. Gloire à Dieu. Donc, juste avant d'aller plus loin, il y a des gens qui vont dire, bien, moi, quand j'entends parler d'évangélisation, j'entends en dedans de moi-même, je suis incapable de gagner des âmes. Moi, je suis incapable, ou encore une fois, il y a des gens qui vont dire, c'est pas mon don. Quand je parle, les gens fuient. OK? Peut-être certaines personnes vous sentez comme ça. Peut-être aussi, vous n'avez vraiment pas le tour. Moi, j'ai déjà été avec quelqu'un dans ma famille, je ne sais pas qui. Mais son approche était, vous devez vous repentir, monsieur, dans une vente de garage. Vous devez vous repentir, sinon vous allez en enfer. Je peux vous dire, cette approche-là, pour certaines personnes, peut-être, ça doit marcher, mais pour d'autres, non. OK? On va apprendre une autre façon. Mais si c'est juste l'approche première, c'est juste, vous allez brûler en enfer, ça se peut que ce n'est pas vraiment gagnant. OK. Mais plusieurs personnes vont dire, ben moi, je suis incapable de gagner des âmes. Mais pourtant, dans la parole de Dieu, dans Philippiens 4:13, ça dit, l'apôtre Paul lui a dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Et on sait que ça a le rapport avec la souffrance. Je peux endurer plein de choses par celui qui me fortifie. Et souvent, l'accent, on a mis l'accent sur le « je ». « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est comme ça qu'on a été ça. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Avez-vous déjà remarqué l'accent on l'a mis? Au lieu de dire « je puis tout », on peut dire « je puis tout par celui qui me fortifie. » Voyez-vous la différence? « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc, la puissance ne vient pas de moi, c'est la puissance de Dieu qui va couler à travers ma vie. Donc, au lieu de mettre l'accent ou le focus sur moi-même, je vais mettre l'accent et le focus sur celui qui me fortifie, le Saint-Esprit qui est en moi, qui va couler à travers ma vie et qui va rejoindre des gens, qui va toucher des gens et des cœurs. Gloire à Dieu. Amen. Bon, sauf que si vous dites déjà en partant, on va me parler un petit peu de l'honneur, mais ça c'est bien, mais l'évangélisation, oh non, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Non, enlevez cette pensée-là tout de suite, parce que l'évangélisation que vous avez connue dans le passé, c'est peut-être pas ce qu'on va voir ensemble. Parce que là, on va parler de briller pour Jésus à chaque moment de notre vie. Gloire à Dieu. Donc, pour entrer vraiment dans cet appel que Dieu nous appelle à briller, à être le sel de la terre, on doit comprendre une chose, c'est dans 2 Timothée chapitre 1 et le verset 7. Il est écrit, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Bon. Mais là, des fois, on met toujours l'accent sur la force aussi. Un esprit de force, on est fort en Jésus. Et là, vient le temps d'évangéliser, puis là, on est comme ça. On a mis l'accent sur la force. D'amour, ah, ça c'est bon. On met l'amour, on peut aimer les gens, c'est bien. Mais ce matin, ce que je veux vous souligner, ça dit « et de sagesse ». Dieu va nous donner la sagesse pour savoir comment rejoindre les gens. Amen? Bon, moi j'ai évangélisé beaucoup dans ma vie. J'ai eu toutes sortes de saisons. Quand j'étais petit, à l'âge de 4-5 ans, j'étais pasteur dans ma remise, comme vous savez. Je vidais la tondeuse, les râteaux, et là je faisais mon église. Pas juste le dimanche matin, moi c'était tout le temps, quand ça me tentait. Hein? Chaque jour de ma vie, si je voulais, je pouvais faire l'église. J'étais le pasteur de la louange, et puis je publiais une revue aussi, ça s'appelait le Journal chrétien. Et j'évangélisais, parce que je voyais Billy Graham, Jimmy Swaggart, qui avaient leur propre revue. Bien, je me suis dit, si eux ils ont leur revue, bien, moi aussi j'ai besoin d'avoir une revue. Donc mon père était le seul partenaire. Et puis, il payait toujours pour... c'est bon quand on a une personne pour financer comme ça, là, mais c'est très facile. On n'a pas besoin d'envoyer beaucoup de lettres. Une seule lettre ou une seule requête, et puis l'argent rentre. Hallelujah! Hein? Que Dieu le fasse pour enseigne-moi. Un seul, oh, 1 million, ça serait bien. Hein? Gloire à Dieu. Amen. Mais tout ça pour dire que quand j'étais petit, c'était comme ça. J'évangélisais constamment. J'allais dans les rues, et moi, j'avais aucune crainte, aucune gêne. Écoutez, pour moi, j'étais comme ça. À 4 ans, je me souviens, je suis monté dans une montagne pour évangéliser avec mon église. On avait été donné des tracts pour évangéliser. Puis moi, j'avais 4 ans, j'étais un petit bonhomme blond. Le monde me trouvait cute dans le temps. Puis le monde recevait mes tracts, puis « Oh, es-tu cute, le petit bonhomme? » C'était comme ça. Puis là, j'étais comme « Jésus t'aime, repentez-vous. » Et puis, mais les gens, j'ai su des années plus tard qu'il y a des gens qui ont été sauvés par ce ministère-là. Hein? Juste un petit gars qui fait ça. Mais j'avais Dieu dans mon cœur. Et là, comme vous savez, bon, ben, plus tard, j'ai vieilli. Quand je suis allé à l'école biblique, je me souviens, j'étais à Bâton Rouge, en Louisiane. Et là, les projets d'évangélisation, c'était dans les rues, sur le campus de Louisiana State University, l'université de Louisiane. Et puis, j'étais là-bas, j'évangélisais, et là, je rencontrais des intellectuels, puis c'était des gens méchants. Avez-vous déjà rencontré des intellectuels anti-Dieu? Pas tous, il y a des intellectuels qui sont amoureux de Dieu, gloire à Dieu, mais il y en a qui sont bornés contre Dieu, puis j'aimais pas ça, rencontrer ces gens-là méchants. Bon, et là, ça m'intimidait un peu. Avez-vous déjà été intimidé? J'essayais de parler, mais là, c'est comme... Là, il me faisait sentir vraiment diminué. Une autre chose que j'ai vécue, j'essaie de penser, c'est quoi d'autre? Ah oui, c'est ça. J'ai rencontré une femme merveilleuse, elle s'appelle Mathilde Gaudreau. Et puis, là que j'ai rebaptisé Gaudrette Sphinx. Mais cette femme-là, bien, pendant 2-3 ans, j'ai prié dans mon église, « Seigneur, je veux avoir un partenaire pour aller évangéliser. Moi, je veux aller vraiment briller pour Jésus partout. » J'ai à cœur d'aller évangéliser. Et là, le Seigneur m'a dirigé à être dans cette église où j'ai rencontré Mathilde. Et puis, on avait un ministère qui s'appelait EE, Évangélisation Explosive, qui a été fondé en Floride. Et puis, partout à travers le monde, il y a des églises qui ont ce programme d'évangélisation. Et puis, on allait dans les parcs, on pouvait aller dans les résidences, rencontrer les gens. On faisait de l'évangélisation comme ça. Et puis, Mathilde et moi et un frère, on allait évangéliser parce que c'était toujours comme ça, 3 par 3. Et puis, c'était la méthode. Donc, on évangélisait ensemble et j'ai eu toutes sortes d'expériences. J'ai eu une fois, je suis allé à une porte pour évangéliser, puis il y a une dame qui a ouvert la porte et elle avait un chien, puis elle voulait le relâcher sur nous si je m'en allais pas. Ça, c'est pas le fun non plus. Combien d'entre vous, vous aimeriez ça, vivre ça? Si vous partez pas d'ici, là, je relâche le chien sur vous. OK. Mais il y a toutes sortes d'expériences et il y a beaucoup d'expériences négatives. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a peur. On a peur d'aller évangéliser. Alors, si je vous dis, Demain matin, on s'en va évangéliser ensemble. Il y aurait très peu de personnes parce qu'on a tellement peur et puis on n'aime pas l'inconfort. Mais c'est sûr que Dieu nous appelle à aller au-delà de notre inconfort. Mais ceci dit, ce que j'ai compris, moi, c'est que souvent les chrétiens pensent que pour évangéliser, il faut que ça soit douloureux et il faut que ça soit atroce et affreux parce que ça doit être la volonté de Dieu. Mais est-ce que ça se peut qu'on puisse avoir du plaisir en gagnant des âmes? Est-ce que c'est possible que ça soit le fun? Et est-ce que ça se peut aussi qu'on puisse faire des choses qui vont être plus productives, qui vont rapporter plus de fruits? Je peux vous dire oui. Une des façons qu'on peut gagner des âmes pour le Seigneur, c'est par amitié. Juste en levant les mains ici, combien de personnes ici, vous avez connu Jésus parce que quelqu'un que vous connaissez vous en a parlé? C'était par un ami, en levant la main. Combien ici, c'est par quelqu'un que vous connaissez, qui est un ami? C'est une grande partie de l'Église quand même. Combien d'entre vous, c'était un étranger total? Vous n'avez jamais rencontré, c'est un étranger. Sauf qu'il y en a, c'est des étrangers. Bon, mais c'est très peu quand même. La majorité, c'est par un contact personnel. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça, on fait confiance à une personne qu'on connaît, n'est-ce pas? Et ça, c'est vraiment, c'est important et on doit discerner que pour évangéliser, on s'est toujours concentré sur les inconnus, les étrangers. Mais est-ce que ça se peut que Dieu puisse nous parler aujourd'hui et nous dire « La majorité des gens acceptent le Seigneur par un contact, un ami, quelqu'un qu'on aime déjà. » Est-ce que ça se peut, ça? Ou on devrait toujours se concentrer juste sur les étrangers et bâtir? Puis, ce matin, on va examiner tout ça un peu. Mais je veux relayer, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. OK? Bon. Nous ne gagnons pas des points parce que c'est plus difficile. Il y a des gens, enlevez ça de votre pensée. Si c'est plus difficile, dans le sens, dans l'évangélisation, je vais gagner des points avec Dieu. On ne gagne pas plus de points si c'est difficile et atroce. Pouvez-vous dire « Amen » C'est pas, vous n'allez rien gagner. Vous n'allez rien gagner de plus. Ce n'est pas parce que c'est difficile ou inconfortable que ça va faire plus plaisir à Dieu. Ça, c'est une chose qu'on doit vraiment enlever, là, parce que la majorité des gens pensent qu'il faut qu'on soit inconfortable. Bon, oui, nous pouvons évangéliser des étrangers, mais pourquoi pas aimer des connaissances? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi toujours viser des contacts froids? Puis on appelle ça comme ça. Un contact froid, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, vous n'avez aucun lien. Dieu peut le faire, c'est sûr. Puis on ne dit pas non, mettez un X là-dessus à tout jamais. Mais pourquoi seulement viser toujours des inconnus? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on a l'idée que l'évangélisation, il faut que ça soit pénible. Peut-être aussi parce qu'on dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, mais pourquoi qu'on oublie toujours les gens qui sont dans notre vie? Pourquoi oublier ces gens-là que nous côtoyons, que nous connaissons? Pourquoi? Parce qu'on pense toujours, le ministère, c'est difficile. Mais enlevez ça de vos pensées. Aujourd'hui, je veux vous poser la question, qui connaissez-vous déjà? Qui connaissez-vous déjà qui ne connaissent pas Dieu? Avez-vous des noms déjà dans votre tête, des personnes que vous connaissez, que vous aimez, mais ces gens-là sont loin de Dieu en ce moment? Avez-vous des idées déjà, des personnes que vous connaissez? S'il y a quelqu'un ici, dans la foule, et vous savez, il y a quelqu'un, au moins une personne que je connais, là, dites « Amen ». Alléluia. Pouvez-vous connecter avec eux et les aimer davantage? Est-ce possible de connecter avec ces gens-là que vous connaissez et les aimer un petit peu plus? Alléluia. Est-ce possible d'inviter ces amis-là prendre un repas? Est-ce possible d'échanger et connecter avec eux et de les aimer comme ça? Ou non, si c'est Dieu, il faut que ça soit difficile et horrible. Est-ce que c'est possible que Dieu nous appelle à connecter avec les gens qui sont déjà dans nos vies? Moi, je dis Amen. Amen. Merci, ma sœur Sylvia. Est-ce qu'il y en a d'autres dans cette région? Amen. 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 Hallelujah. Bon, gloire à Dieu. Hallelujah. Bon, enlever l'idée, il faut que ça soit stressant. Il faut que ça soit plate et épeurant. Enlevez ça de votre tête. Enlevez ça. L'évangélisation, là, c'est une nature, c'est une façon de vivre. Amen. Et mes expériences que j'ai vues, Savez-vous, là où j'ai vu plus de fruits, de résultats dans ma propre vie, c'était avec des amis, des personnes que j'ai côtoyées, des gens qui me connaissaient, où j'avais un droit de parler dans leur vie, de communiquer des choses, et puis qui avaient une soif et qui me posaient des questions sur ma propre vie. C'était là où j'ai pu gagner plus d'âmes pour le Seigneur Jésus. Donc, une des façons d'enlever le stress, OK, et la crainte et la peur, oui, on doit être renouvelé par la parole, parce que Dieu nous dit, je ne vous ai pas donné un esprit de crainte ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc ça, c'est biblique. Mais est-ce qu'on peut s'aider également dans notre foi? Des fois, on a établi la barre tellement haute. Bon, moi, là, le jour que je vais parler de Jésus, ça va être en Afrique et ça va être dans une croisade d'évangélisation devant 20 000 personnes. Là, je vais parler pour Jésus. Là. Ou, bien là, un jour, je vais me réveiller, là, et puis je vais aller dans le parc, là, Parc Victoria, et puis là, je vais aller donner des traités à tout le monde, là, puis là, je vais y aller. OK. Ou, et là, vous savez, oh, ça va me stresser, vous allez prier au Seigneur que les gens s'éparpillent pour pas que je parle à personne. Il y a des gens comme ça. J'ai entendu des témoignages des gens qui voulaient partager leur foi, mais qui, en dedans d'eux, ils disent, oh non, que les gens quittent, je ne veux pas parler à personne. Je suis trop gêné. Mais savez-vous, vous n'êtes pas la seule personne comme ça. Il y a plein de personnes ici, dans l'Église, où ces gens-là sont gênés de parler aux étrangers. Savez-vous qu'un des stress premiers des gens-là, un des plus grands stress de la vie, c'est de parler en public devant les gens? Ça, je ne me souviens plus des statistiques, j'ai lu ça récemment, mais les gens ont moins peur de la mort que de parler devant les gens. Les gens ont plus peur de faire ce que je fais en ce moment-là que de mourir. Donc, on est tous dans le même bateau en grande partie, sauf il y a des exceptions. Il y a des gens comme mon grand-père, lui, c'est un évangéliste. Un évangéliste, je me souviens, j'étais petit, on était au centre d'achat, il était assis là, il y a une petite madame qui vient s'asseoir à côté de lui. « Hey, madame, Jésus vous aime », et puis il commence à prêcher. Et puis, mon grand-père aussi avait le don de guérison, c'était glorieux. Prie pour la petite madame, elle guérit comme ça. C'est merveilleux, hallelujah. Oh, que Dieu se multiplie comme ça. Lui, il n'avait aucune gêne, totalement libre. Ben, gloire à Dieu, que Dieu le fasse parmi nous. Amen. Mais est-ce qu'on est obligé d'attendre à ce jour-là, puis dire, ben là, quand l'onction va venir sur moi, quand ceci, quand cela, et là, je vivrai? Non. Est-ce qu'on peut juste choisir aujourd'hui de briller d'une façon là où nous sommes au niveau de notre foi? Si on dit, oui, mais ma foi est tellement basse. Oui, mais Dieu va se servir de vous là où vous êtes. Et savez-vous, si on décidait, moi, je peux briller en groupe. En groupe, c'est moins gênant. Ça m'aide quand je suis avec mes frères et mes sœurs. On est 10 personnes, admettons. On a tous peur, mais on accepte l'appel de Dieu pour aller briller. Et puis en plus, la façon qu'on y va, c'est une façon où on commence juste à connecter avec les gens. Connecter pour aimer. Et l'amour véritable, plus tard, ce que ça fait, c'est que l'amour qui va être semé dans le cœur de la personne va créer une opportunité pour semer la bonne nouvelle de l'Évangile. Voyez-vous? Mais souvent, on a juste valorisé la proclamation de l'Évangile avant que le cœur soit prêt. Et puis, on pense que c'est nous devons gagner des âmes. Et savez-vous, celui qui convainc de péché, de justice, de jugement, c'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas capable de sauver quelqu'un. Pourquoi on part juste dans des projets où on doit faire ceci? Aujourd'hui, là, je dois gagner des âmes. Okay? Sans oublier que c'est un travail d'équipe. Le ministère d'évangélisation, là, c'est un travail d'équipe, toujours. C'est prouvé. Je vais vous montrer la parole de Dieu. Venez avec moi dans 1 Corinthiens 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 6. C'est un texte assez bénissant. Vous allez voir pourquoi. Ici, il est écrit, « J'ai planté », ça c'est Paul, l'apôtre Paul qui parle. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Voyez-vous, c'est un travail d'équipe. Obligatoirement, s'il y a une personne qui se donne à Jésus, le Saint-Esprit est toujours dans l'équipe. Donc, vous ne serez jamais seul. Vous ne pourrez jamais dire « Gloire à moi, j'ai gagné 10 âmes ». Non, ça a été un travail d'équipe. Au moins, vous et le Saint-Esprit. OK? Gloire à Dieu. Donc, c'est toujours, toujours un travail d'équipe. Dites-le, l'évangélisation. OK, là, mais là, il faut vous réveiller. Donc, l'évangélisation, c'est un travail d'équipe. On va le redire. L'évangélisation. C'est toujours un travail d'équipe. Bon, là, croyez-vous maintenant? Bon, ça fait que j'ai Paul, là, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Bien, gloire à Dieu. Là, on peut se poser la question, mais pourquoi que les gens visent toujours juste la récolte? Quand c'est l'évangélisation, il faut que je récolte aujourd'hui même. C'est bien d'avoir soif des âmes que Dieu sauve, c'est sûr et certain. Mais pourquoi là, on vise juste la récolte? C'est parce qu'on a besoin ou on recherche la gloire personnelle. Malheureusement, c'est ça. La vérité, c'est que moi, j'ai conduit 10 âmes au Seigneur cette année. Et puis là, en anglais, il y a une expression « bulk » en tout cas, je ne peux même pas le dire, parce que je viens de l'oublier. Mais on se pète les bretelles en québécois, une autre façon. J'ai une autre chose sur mon « buckle » qu'on dit. Comment on dit en français, ma femme? En tout cas, ça ne change rien. On veut se glorifier par nos exploits. OK, j'ai gagné 10 âmes au Seigneur. Hallelujah! Oh, gloire à Dieu! Bon, mais quand on est admettons, on est une équipe, puis on a gagné 20 âmes ensemble. Mais là, on ne peut pas dire, c'est moi, bing, bing, puis me péter les bretelles. Mais on peut dire, gloire à Dieu, on a prié pour telle personne ensemble. Ce n'est pas juste aimer les gens puis les laisser comme ça. Non, c'est d'aimer véritablement les gens. Et là, dans cet amour, on va prier pour eux et on va les accoucher spirituellement jusqu'à temps qu'on puisse leur prêcher l'Évangile, OK? Parce que c'est toujours la prédication de l'Évangile qui va faire en sorte que la personne va se convertir. On ne peut pas aimer les gens juste comme ça puis ils disent « Ah, je vais aller à EVQ ». Ça, ce n'est pas un vrai salut. C'est toujours, par la Bible nous dit, la folie de la prédication. On va toujours devoir prêcher la vérité et leur dire « Vous êtes pécheurs et puis vous avez besoin de vous repentir ». C'est obligatoire, ça. Comprenez-vous? On doit tous le savoir. C'est parce qu'on ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans réaliser que nous sommes pécheurs et en besoin d'un sauveur. Amen? Donc, on va leur prêcher, mais on va créer un contact avec la personne pour qu'elle puisse se sentir aimée et que il n'y a pas un autre motif autre que l'amour véritable pour la personne. C'est ça, c'est quand on aime vraiment la personne, on va prendre le temps pour bâtir un contact pour que la personne se sente aimée, et là, il va avoir une disposition à entendre ce message-là. Aussi, ne limitez pas l'Esprit de Dieu. Peut-être vous allez rencontrer une personne et ne vous limitez pas à dire, « Là, il faut que j'établisse un contact de 10 ans. » Ce n'est pas ça du tout. Des fois, c'est un premier contact et la personne est déjà prête. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a semé, et puis ça a déjà été arrosé, et puis l'Esprit de Dieu est déjà sur la personne, et la personne, admettons, vient de rencontrer quelqu'un la veille, puis là, est prête à recevoir. Ne pensez pas, là, il faut que je dise rien. Peut-être que la personne est prête. Donc, n'oubliez pas le Saint-Esprit dans l'équipe. Le Saint-Esprit va vous dire, écoute, prêche maintenant. Là, la personne a besoin maintenant d'entendre parler de Jésus. Comprenez-vous? Est-ce que quelqu'un est ici ce matin? Alléluia. Donc, ne pensez pas programme. Enlevez l'idée programme. Pensez briller et aimer. Je veux briller et aimer chaque jour de ma vie et demeurer dans l'équipe du Saint-Esprit. Moi, il y a des gens, des fois, c'est la première fois que je les rencontre et je leur prêche l'Évangile comme ça parce que Dieu avait déjà fait un travail dans leur vie. Et des fois aussi, l'Esprit de Dieu travaille comme ça. On doit vraiment juste être à l'écoute constamment. Voyez-vous, c'est super important. Mais des fois, on était là, OK, ce matin, on s'en va, là. On n'est pas du tout attentif à la voix de l'Esprit. On va prêcher comme un message très, très clair. La personne est totalement fermée. Au lieu de voir la personne se convertir, elle devient anti-Dieu, par exemple. Mais voyez-vous, ce qu'on veut faire, c'est être attentif à l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu veut sauver tous les hommes. Donc, ne pensez pas toujours juste, je suis tout seul là-dedans. C'est un travail d'équipe avec le Saint-Esprit. Hallelujah. Moi, je suis d'accord avec moi-même. Bon, 1 Corinthiens 1:21, ça dit, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, on est sûr et certain qu'on doit connaître notre témoignage personnel et on doit connaître des versets sur l'évangélisation personnelle. Et je vais vous donner des textes, mais juste pour nos internautes, peut-être à la maison, il y a Éphésiens 2, 8 à 10, qu'on devrait connaître par cœur. Éphésiens 2, 8 à 10, qui est le message central du salut par grâce. Vous devriez connaître ça par cœur comme ça, pour que ça puisse être le verset clé que vous allez utiliser pour partager le salut par grâce. Et Romains 10, versets 9 et 10, vous devriez savoir ça aussi. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de la façon qu'on devient un enfant de Dieu, c'est par la confession de notre foi en Jésus. Donc, il y a des choses qu'on devrait vraiment comprendre et savoir. Et puis, on peut vous donner aussi de l'enseignement sur l'évangélisation, sur des versets clés pour savoir comment présenter l'Évangile. Mais avant de savoir comment, on doit juste comprendre qu'on doit aimer les gens et franchir cette place ou quitter cette place d'isolation. Amen. Bon, gloire à Dieu. Et mon doux. Hallelujah. Bon. OK. Bon, un autre point. Nous devons également, c'est ça, vraiment valoriser le travail d'équipe et toutes les étapes de l'évangélisation. La semence, c'est une chose qu'on doit valoriser aussi. La semence de l'amour, la semence de la parole de Dieu, le travail du sol, l'Esprit de Dieu qui travaille. On doit valoriser les étapes et pas juste une étape. La récolte est importante. Écoutez, combien de fermiers connaissez-vous? Eux, ils disent, ben moi, là, ce qui compte, c'est juste une journée par année, et c'est là, je vais semer et je vais récolter la même journée. Combien de fermiers vous connaissez comme ça? C'est juste une journée, la récolte, c'est juste ça qui compte, la récolte. Mais ces fermiers-là ne feront pas longue vie, n'est-ce pas? Parce que ça ne marche pas comme ça. La semence et la récolte, toujours la même journée, ce n'est pas comme ça, à moins de vraiment un miracle surnaturel que Dieu est capable. Là. Dieu est capable de faire ce qu'il veut. Mais comprenons qu'il y a un travail d'équipe. Et si on dit, au lieu de dire, ben, une fois par année, je vais aller évangéliser, ou une fois par mois, si on évangélise à chaque jour et on aime à chaque jour, bien là, on est en train de créer toujours des... On est en train de semer, en fait, à chaque jour. On fait des semences, on sème, et là, on récolte de plus en plus. Mais souvent, on ne sème pas. On a trop la mentalité, je m'en vais chez Walmart, il faut que j'aille acheter mon fromage puis ma pinte de lait, OK? Puis là, je vois des âmes perdues, puis comme ça, puis c'est comme... Puis là, il y a quelqu'un qui me dépasse en ligne. « Hey, tasse-toi, là. Hey, c'est à ma place, ça. » Puis là, on est comme ça. Et puis après, là, on veut gagner des âmes. « OK, mais là, 2 heures, oui, c'est vrai, on va aller dans les parcs, on va aller évangéliser. » Si on vit l'Évangile chaque moment de notre vie, c'est comme la petite dame, elle vient de se faufiler devant vous. Ah ben, soyez bénis, ben, peut-être pas comme ça. Vous allez peut-être le dire autrement. Pas de problème, madame, pas de problème. Hey, vous aussi, vous voulez venir? Venez. Hey, oui, et vous, là, venez. Non, je dis ça comme ça. C'est juste une façon d'aimer, OK? Comprenez. Si on peut être rempli d'amour et semer de l'amour, c'est une chose importante. OK, bon, gloire à Dieu. Alléluia. OK, Seigneur me donne sa grâce. Bon, ça, c'est très bien. On va dire, ben oui, on veut partager notre foi. Combien d'entre vous, cette année, vous aimeriez ça, avoir la personne que vous aimez à côté de vous à l'église? En applaudissant, ici, là, OK, dans 2 secondes, je vais vous dire d'applaudir. Mais je veux vous penser, la personne, là, que vous connaissez déjà, qui ne connaît pas Dieu en ce moment, ou une personne qui est éloignée de Dieu, mais vous aimeriez que cette personne-là soit assise à côté de vous. Et vous croyez aussi que Dieu peut se servir de vous pour l'aimer et connecter avec cette personne-là. Maintenant, je vais vous demander, applaudissez si vous connaissez une personne et vous croyez que ce sera le fun qu'elle soit ici. Bon, bien, ça, c'est déjà un bon signe. OK, gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut le croire? Est-ce qu'on peut croire? Moi, je crois en vous. Je crois dans le Saint-Esprit qui est en vous et le fruit de l'Esprit qui peut être manifesté à travers votre vie. OK. Là, on ne veut pas juste... prêcher la bonne nouvelle, on doit manifester. Nous devons devenir cette bonne nouvelle dans notre monde. Nous devons manifester la bonne nouvelle dans nos vies. Amen? Il y a plein de choses que je pourrais dire. Mais je vais me limiter. Là, on peut se dire, mais comment valoriser, OK, et vraiment aimer les gens? Bien, on doit comprendre la loi de l'honneur. C'est une chose importante qu'on doit comprendre pour notre propre vie. Dans notre Église, on doit comprendre la loi de l'honneur et ensuite, on doit comprendre la loi de l'honneur pour les gens qui sont loin de Dieu. C'est une chose qui doit faire partie de qui nous sommes, savoir honorer les gens. Parce que c'est vraiment important et on va le voir ensemble. Venez avec moi on va aller dans Romains 13, verset 7. Et je vais vous lire un texte super important concernant la loi de l'honneur. Et vous allez dire, mais quel est le rapport? Quel est le rapport ici entre l'évangélisation et l'honneur? Notre société est remplie de personnes qui marchent dans le déshonneur. On parle contre nos politiciens. On parle contre nos patrons. On parle contre les gens dans la société. Les gens sont toujours dans le déshonneur. Mais Dieu nous appelle à briller et à être différents. Nous sommes appelés à être totalement différents, mais pour y arriver, on doit être différent dans notre Église. Nous devons être cette Église qui marche dans l'honneur. Je peux vous dire les commentaires qu'on a eu des gens qui sont venus en visite ici à EVQ. Le commentaire que j'entends toujours, c'est que les gens ressentent l'amour ici. Les gens me disent, en tout cas, l'accueil à l'Église ici, on sent tellement l'amour, c'est merveilleux, on est bénis. Ce matin, on a des sœurs qui étaient là à l'accueil, et puis ma mère a monté cette équipe-là. Ma mère qui est avec mon père ce matin, sont allés prêcher à l'Église espagnole. Je dis à mon père, tu prêches en espagnol le matin? Il dit non, mais il va être traduit. Il prêche en anglais ce matin, c'est spécial. Hein? En anglais, traduit en espagnol, alléluia. Mais tout ça pour dire, l'accueil ici à EVQ, c'est une chose où on l'a déjà. Gloire à Dieu, grâce à Dieu qui nous aide dans le sens, Dieu a fait en sorte qu'on puisse avoir des personnes qui aiment. Amen. On est une église où on aime les gens. Ça, c'est le témoignage qu'on entend constamment. Mais gloire à Dieu pour ça. Mais là, ce qu'on veut faire, on ne veut jamais être satisfait et dire, bien là, on est déjà dans l'amour, puis ça vient de s'éteindre. Non, on veut aller toujours plus loin et aussi marcher dans l'honneur véritable. Et c'est là où on va en arriver. Sauf que la question peut se poser, comment valoriser et honorer les personnes loin de Dieu en commençant ici, dans la maison de Dieu. Dans Romains 13, verset 7, il est écrit, « Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. » Combien d'entre vous, vous avez payé des impôts? Ne levez pas la main. Mais on n'aime pas ça, payer les impôts, mais Dieu dit qu'on doit payer les impôts. OK? Le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte ou le respect, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Dieu nous appelle à marcher dans l'honneur et c'est une loi spirituelle. Quand les gens marchent dans l'honneur, je peux vous dire, j'ai vu dans ma propre vie des gens qui marchaient dans l'honneur et on peut déjà voir, ils vont réussir dans les plans de Dieu parce que si ces gens-là honorent Dieu avec leur vie et puis s'ils marchent dans l'honneur vis-à-vis les gens, Dieu bénit ces gens-là. On voit dans leur vie la bénédiction de Dieu. Les gens, par contre, qui marchent dans le déshonneur, on le sait déjà, même s'ils ont beaucoup de potentiel, plusieurs dons, des talents, mais ils méprisent les gens. Mais ces gens-là, on voit, ils tournent en rond dans leur vie et puis sont freinés dans la manifestation de la bénédiction. Même si Dieu les bénit, ils seraient bénis dans la manifestation, mais ils sont freinés parce qu'ils marchent à côté du plan de Dieu. Donc, on doit donner l'honneur à qui nous devons l'honneur. Là, je vais vous donner la définition du petit Larousse. Juste pour nous aider à comprendre le mot « honneur », ça dit « ensemble de principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi ou celle qu'autrui nous porte. » Sens de l'honneur. OK? Donc, c'est « ne jamais accomplir une action qui fasse perdre l'estime qu'on a de soi » ou si on veut honorer quelqu'un d'autre, on fera en sorte que la personne, admettons, on parle d'une personne qu'on connaît, on ne va jamais diminuer la réputation ou l'estime que les gens ont envers cette personne-là. Ça, c'est de l'honneur. OK? Donc, c'est savoir honorer, c'est savoir respecter, c'est savoir bénir les gens. Dans notre bouche, par exemple, on va parler d'une bonne façon concernant les gens. Et non seulement ça, on va avoir des actions qui vont honorer la personne. OK? Il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais ce qu'on veut faire ici à EVQ, être une maison où l'honneur est vraiment pratiqué, où on est une maison qui marche dans l'honneur. Bon, on va voir, bon, on doit honorer les personnes qu'on doit honorer. On va commencer. Premièrement, ce qu'on retrouve dans la parole, c'est dans Éphésiens 6, versets 2 et 3. On doit honorer nos parents. On doit honorer nos parents. Si vous dites, oui, mais moi, mes parents ne sont pas très honorables, bien, vous devez honorer vos parents parce que Dieu vous a donné ces parents-là. Peu importe. Et on va voir ce que Dieu nous dit, parce qu'il y a une promesse qui est rattachée à l'honneur. Dans Éphésiens 6, versets 2 et 3, c'est dit « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Remarquez ceci. Ça, c'est super important. « Honore ton père et ta mère. » C'est le premier commandement avec une promesse, « afin que tu sois heureux. » Il y a des gens qui veulent être heureux, je ne sais pas, admettons, ils disent, ben, quand je vais me marier, là, je vais être heureux. Ben, dans mon cas, oui. Gloire à Dieu, je suis bien marié. Alléluia. Mais la Bible me donne la promesse, si je marche dans l'honneur, si j'honore mon père et ma mère, je vais être heureux. Et que tu vives longtemps. Donc ici, on parle de santé et longévité. Voyez-vous des clés importantes? Si je marche dans l'honneur, en rapport avec mes parents, les parents que Dieu m'a donnés, c'est dit, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Bon, on a des parents dans le naturel. Certaines guérisons même, des guérisons physiques, sont freinées par manque d'honneur. J'ai connu une sœur dans le Seigneur à Ottawa, et puis on a prié pour elle, pour sa guérison, et puis le Seigneur lui a montré, parce qu'elle était là, ça faisait des années qu'elle priait pour la guérison, et Dieu lui a montré, il y a le déshonneur dans ta vie, repens-toi. Le moment qu'elle s'est repentie, elle a été instantanément guérie. Gloire à Dieu, parce que ça faisait des années. « Seigneur, je ne comprends pas. Je crois ta parole, je confesse ta parole. » Mais Dieu dit, « Oui, mais tu déshonores tes parents. Repends-toi. » Ça ne veut pas dire quand on veut honorer nos parents, ça ne veut pas dire qu'on va oublier le tort dans le sens qu'on va dire, « Ah non, c'est correct. » Il y a des fois, des gens pensent, lorsqu'on pardonne, qu'on dit, « Non, c'était correct, les gestes mauvais. » Non, non. Quand quelqu'un a péché, c'est un péché. Mais on doit quand même relâcher, pardonner la personne et honorer notre parent, par exemple, juste si vous pouvez juste dire, ben, il m'a donné la vie. À cause de lui, je suis là. C'est juste ça, mais vous voulez comprendre que c'est Dieu qui vous a donné ce parent-là. Et puis, donc, on veut honorer nos parents. Dans mon cas, c'est plus facile, j'ai des parents merveilleux. C'est très facile pour moi d'honorer mon père et ma mère. Je n'ai pas eu des mauvais parents. Mais la Bible est la Bible. Ça veut dire que ça dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. » Donc, ça, c'est une chose, et que le peuple de Dieu dise « Amen ». On a aussi des pères et des mères spirituels. Des pères et des mères spirituelles qu'on doit honorer. Dans 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15, nous lisons 1 Corinthiens 4, versets 14 et 15. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. » Voyez-vous, mes enfants bien-aimés. Si on parle des enfants spirituels, c'est quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. On va avoir des influences spirituelles dans nos vies, et Dieu nous appelle à honorer ces personnes-là dans nos vies. C'est une chose. Moi, dans ma propre vie, il y a eu un homme de Dieu que je savais que Dieu m'appelait à honorer. J'avais des tâches à faire, et dans ma chair, ça me disait, « Oh, ben là, ça ne me tente pas de faire ça. » Avez-vous déjà été charnel? Je peux vous dire oui. Vous l'avez déjà été, je vous ai vu. Mais, écoutez bien ceci. Dans ma chair, ça me disait, « Ah, ça ne me tente pas de faire ça. » J'ai entendu dans mon esprit, ça me dit, « Tu vas faire ça pour m'honorer. Tu vas honorer l'homme de Dieu et tu verras, je vais te bénir. » J'ai fait exactement ce que Dieu me disait, même si dans ma chair, ça ne me tentait pas. Et là, j'ai vu la main de Dieu intervenir surnaturellement dans ma vie. Parce que c'est une loi spirituelle, marcher dans l'honneur. Quand on honore, admettons, un homme de Dieu, okay, on réalise que cet homme de Dieu est un don de Dieu dans ma vie. Dans Éphésiens 4, 11, ça dit que Dieu a fait des dons à l'Église. On parle des 5 ministères. Donc, si Dieu a fait en sorte que telle personne soit dans ma vie pour être une source de formation spirituelle, de connaissance, d'amour de Dieu, toutes ces choses-là, et si je marche dans l'honneur, en fait, ce que je suis en train de dire à Dieu, merci Seigneur, parce que cette personne-là, tu m'as donné cette personne-là dans ma vie comme un cadeau. Quand je marche dans le déshonneur, ce qui se produit, je suis en train de dire à Dieu, Ton cadeau, là, je ne veux rien savoir de ton cadeau. En fait, quand on déshonore l'homme de Dieu, on déshonore le Dieu qui a créé et qui nous a donné cet homme-là. C'est une loi spirituelle au Québec qu'on n'a pas vraiment dans plusieurs églises parce qu'on entend tellement de choses, mais c'est pour ça qu'il y a tellement de problèmes aussi. Parce qu'on marche dans le déshonneur et puis on ne peut pas aller plus haut ou plus loin parce que Dieu ne bénira pas le déshonneur. Okay? Et l'ennemi va toujours semer des gens dans nos vies pour nous tendre le piège, pour entrer dans le déshonneur. Mais le déshonneur va freiner notre croissance spirituelle, je vous le dis. Donc, dans mon cas, le Seigneur m'avait parlé, j'ai choisi, je veux honorer l'homme de Dieu parce que je sais que c'est un homme venant de Dieu et je veux le faire pour honorer mon Dieu. Et je l'ai fait et Dieu a béni, puis j'ai vu la main de Dieu. Une caractéristique commune de la réussite de la vie chrétienne est l'application de la loi de l'honneur. Je peux vous dire, il y a une jeune femme que je connais. C'est une jeune femme intègre dans les voies de Dieu qui aime le Seigneur. Et cette femme-là, partout où elle va, elle est honorée. Le Seigneur lui ouvre des portes. Admettons, elle est allée en Israël, elle rencontre les premiers ministres ou le premier ministre, puis les gens au gouvernement. Au Canada, la même chose. Partout où elle se promène, il y a la faveur. J'ai reçu un courriel. Cette semaine, elle prêchait récemment à l'université Oral Roberts à Tulsa. Partout où elle va, le Seigneur ouvre des portes. Mais c'est une jeune femme que j'ai vue, elle n'a jamais parlé contre quelqu'un. J'ai jamais entendu, mais au contraire, elle a toujours dit, je marche dans l'honneur. C'est ce qu'on doit honorer. C'était toujours, des fois même, j'étais comme, mais mon doux, elle marche vraiment trop dans l'honneur. Des fois, j'étais même surpris par le niveau de cette marche de l'honneur qu'elle avait dans sa vie. Mais c'est une chose importante, marcher dans l'honneur. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? C'est important. Puis on voit vraiment, c'est qu'elle n'osait jamais parler contre une autorité spirituelle. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'autorité spirituelle, admettons, qui est là, qu'on ne peut pas parler. Si on a des choses, on est concerné par telle ou telle affaire, Dieu nous appelle à avoir une relation aussi avec nos autorités, n'est-ce pas? Il n'y a pas de la dictature, on est une famille. On est une famille, donc quand il y a un problème, quand on aime et quand on marche dans l'honneur, on va aller voir la personne en question et dire, y a tel problème que je vois, est-ce que tu peux m'expliquer? On va dans un esprit de respect, de révérence. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Quand on parle dans le dos de quelqu'un, et en fait, malheureusement, des fois, les gens pensent qu'ils sont en train d'avoir du plaisir, comme des bonbons dans la bouche, sont là en train de parler contre un leader. Mais ce qui se produit à ce moment-là, c'est qu'eux-mêmes sont freinés. Puis je vais vous donner une illustration très, très belle. Si on crache sur notre leader, ça nous retombe dessus. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Satan veut vous empêcher d'aller à un autre niveau, à ce niveau-là. C'est-à-dire que si vous attaquez celui qui est au-dessus de vous, parce que vous êtes placé sous l'autorité dans l'Église, c'est comme ça que ça marche, bien, si on maudit notre leader, on n'ira pas plus loin, comprenez-vous? C'est-à-dire que si vous voulez être béni, vous devez bénir ceux que Dieu a placés sur vous. Ça, c'est la doctrine ou la loi de l'honneur. Joan Dewart, c'est une femme qui a fondé l'antenne de TV, Miracle Channel. Ça, c'est une femme... J'ai vu l'honneur dans sa vie. C'est une femme où elle a été persécutée. J'ai été une fois dans une réunion. On était peut-être 2000 dans la réunion. J'ai été assis à côté d'elle. Et publiquement, elle a vécu un affront. Moi, j'étais brisé dans mon cœur pour elle. Elle a été comme blessée publiquement. Et puis, j'étais là. Puis là, après, elle dit, le Seigneur me dit, je dois aller honorer cette personne et lui remettre un chèque de 500$. Elle me dit ça en privé. Là, je vous le dis publiquement. J'étais comme... « You're a saint ». C'est ça que j'ai dit, « T'es une sainte ». C'est vrai aussi, on est tous des saints. Mais j'étais comme, elle dit, « Seigneur m'a dit, je dois aller honorer la personne et aller lui donner un chèque de 500$. » Mais c'était pas pour se glorifier, là. J'étais assis à côté d'elle, puis on était proches parce que je travaillais dans leur équipe. Puis là, j'étais comme, tu sais, la chair, là, dirait plein de choses. Mais après, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, après 30 ans de service, on l'avait déshonoré. D'une certaine façon, mais elle a dit, je vais honorer encore, je vais aimer. Puis, en plus, elle l'a fait. J'étais comme, wow, ça c'est de l'honneur. Mais l'échec spirituel est relié souvent à la violation de la loi de l'honneur. J'ai aussi côtoyé, comme vous savez, quand j'ai été dans l'antenne de TV là-bas, pendant 5 ans dans le monde de la télévision, j'ai rencontré plein de célébrités chrétiennes. OK? Juste vous dire ça. C'est que plein de gens qui sont connus. Et je revenais au Québec. Et des fois, je mangeais avec des gens. Il y a une fois, j'étais assis à une table, et puis là, il y avait une conversation, et là, il y a quelqu'un qui décide, je vais routir telle personne, OK? Je vais routir avec mes paroles, je vais évaluer, faire mes jugements sur le ministère de la personne, puis commencer à dénigrer finalement. Et moi, je venais juste de passer la personne en entrevue, puis j'ai appris à connaître la personne, je connaissais déjà juste son cœur, puis l'amour de Dieu que je ressentais dans sa vie. Et là, M. Joe Blow, qu'on va appeler comme ça. Joe Blow, lui, passait son évaluation sur le ministère complet, puis finalement, il dénigrait la personne. Puis j'étais là, j'étais comme... Ça, c'était des gens de l'extérieur qui jugeaient les gens. Puis je me suis dit, ces gens-là qui jugent constamment, ils ne rentreront jamais dans le cercle intérieur parce qu'ils freinent la loi ou ils désobéissent la loi de l'honneur. Ils vont toujours demeurer à l'extérieur de l'honneur de Dieu parce qu'eux-mêmes font des semences dans le déshonneur. Ils marchent dans le déshonneur. Puis cette même personne-là, puis je ne vous dis pas c'est à cause de ça, là. Mais la personne avait du désordre dans sa vie, à plein de niveaux, de désordre spirituel. Mais la personne aujourd'hui est morte. Puis je ne vous dis pas c'est à cause de ça, là. Mais je veux juste vous dire, dans sa vie, ça allait mal en général. Mais la personne prenait son opportunité d'évaluer le serviteur de Dieu, que moi je connaissais quand même, puis je trouvais ça triste. Je me suis dit, tu sais, il y a tellement de gens, là, il y a tellement de ministères, ils passent leur temps à évaluer tout le monde, mais ils ne font rien pour Dieu. Trouvez-vous ça dommage? Amen. Bon, sauf que là, ceci dit, une des choses qu'on veut expliquer, si vous êtes, admettons, dans une église locale, et vous êtes dans une église locale, vous avez un leader spirituel dans un département, vous allez voir la personne, comme on a déjà expliqué à l'église. Parce qu'il n'y a pas de dictature, c'est une famille où on se parle, mais on parle aux bonnes personnes, comme on l'a déjà dit, puis je le répète. Mais l'honneur là, va chérir la personne, va chérir la réputation de la personne et va chérir l'unité du corps de Christ. Parce que le moment que je marche dans le déshonneur, peut-être avec un ton de voix, admettons, puis là, je parle avec des gens, je parle... Ça, c'est ça qui détruit les églises, qui détruit l'unité. Puis on peut se poser la question, ouais, mais pourquoi que des gens qui sont toujours de même, on dirait, sont hypocrites, sont gentils avec nous, puis en privé, sont comme le contraire. Pourquoi? La seule raison là, pourquoi il y a des gens qui demeurent, même après l'avoir entendu, ils l'ont entendu prêcher, ils l'ont entendu plein de fois, ils s'y ont vécu, et pourtant ils poursuivent là-dedans. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un cœur endurci. Tout simplement, un cœur endurci. Mais ces gens-là n'entreront jamais pleinement dans ce que Dieu les appelle. Pourquoi? Parce qu'ils marchent dans le déshonneur. Bon, mais Dieu nous appelle à marcher dans l'intégrité, dites intégrité, et honorer nos mentors, même les mentors, les pasteurs de votre passé, avant d'être ici. Si, admettons, vous dites, ben, mon pasteur, lui, là, je trouvais qu'il y avait ci et ça de pas correct, parlez-en pas, bénissez ce que vous pouvez bénir. Voyez de positif, voyez les choses positives que vous avez reçues de lui. Amen! Moi, là, ce que j'aime à EVQ ici, là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, des fois, puis ils sont venus d'une autre église, admettons, puis ils disaient, bien, j'avais besoin de la nourriture ici. Puis des fois, ils me disaient, bien, j'avais des choses que je ne recevais pas là-bas, mais gloire à Dieu, mais je ne me souviens pas personne ici qui me disait, bien, mon pasteur, c'est un ci, puis ça, puis ça. Quand on entend ça, des gens qui détruisent, là, tout ça, savez-vous ce que ça me dit? Bien, là, tu détruis l'autre, là, mais après, quand tu vas avoir fini avec moi ici, là, tu vas me détruire ailleurs. C'est vrai. Si tu maudis ce leader-là, ce berger-là qui a essayé de t'aimer à sa façon, bien là, tu risques de le faire aussi dans ma vie. Sauf que, mais je suis content parce que je ne me souviens pas d'une seule personne ici qui m'a fait ça concernant un autre berger. C'est bon, ça. Amen. C'est bon. Gloire à Dieu, c'est un beau témoignage pour cette église. Je ne me souviens pas. Peut-être que c'est arrivé, là, mais devant Dieu, je ne m'en rappelle pas. C'est que peut-être comme ma mère là, qui oublie les mauvaises choses. Ma mère est bonne pour ça, puis c'est une belle qualité. Alléluia. Bon, OK. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens 14, verset 33. Le déshonneur, en fait, c'est le mépris d'une décision, par exemple, le ton de voix qui déstabilise et déroute les enfants de Dieu, qui crée des scandales. Puis, j'ai un souvenir. Ah oui, je viens de m'en rappeler. On a eu une personne, 30 ans de vie chrétienne, qui est arrivée. Et puis, il parlait contre moi et un autre pasteur dans l'équipe. Mais il parlait comme ça, il marchait dans le déshonneur avec des nouveaux chrétiens. Imaginez, un nouveau chrétien. Et puis là, il se mettait à faire de la médisance, comme ça. Puis ce monsieur-là voyageait avec les nouveaux chrétiens dans son auto pour venir à l'école biblique. Puis pendant une heure, il maudissait les leaders de l'Église. Pendant une heure, avant de venir recevoir la formation. Une heure de malédiction. Ils sont comme ci, ils sont comme ça, ils ne sont pas corrects. Un an ou deux ans plus tard, il m'écrit un courriel pour me demander pardon, parce que Dieu lui a montré qu'il était dans l'erreur. Mais gloire à Dieu! Alléluia! Mais ce qu'il a fait, il a écarté des nouvelles personnes qui venaient de se donner au Seigneur. Voyez-vous? On peut demander pardon, mais les désastres sont là quand même. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste. Alléluia! Oh, gloire à Dieu! 1 Corinthiens 14, 33, se dit, « Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Comme dans toutes les églises des saints. Si vous êtes là et vous dites, moi, je veux marcher dans l'honneur, bien, on doit adopter la loi de l'honneur dans nos vies. Marcher dans l'honneur. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Être franc, transparent, honnête, intègre, c'est ça que Dieu nous appelle à faire et à être dans cette église. Amen. Être transparent. Si, admettons, il y a des choses, on parle et on corrige des choses, mais on va toujours parler à la personne concernée parce que ça ne donne rien par la droite et à gauche et juste défaire le climat d'amour dans l'Église. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Bon, gloire à Dieu. Et la solution à tout ça, si on veut gagner des âmes, on veut marcher dans l'honneur, c'est sûr, on veut marcher dans l'honneur, mais aussi ce qu'on veut faire, c'est dans l'Église. Tu sais, si on veut gagner des âmes, bien, nous-mêmes, on doit s'honorer. On doit aimer nos frères et nos sœurs. On doit choisir l'amour en tout temps et l'honneur. Comment est-ce qu'on peut honorer d'une façon pratique? Bien, la Bible nous dit avec nos paroles, oui, mais pas juste ça. Vous pouvez vous honorer mutuellement. Peut-être même, si vous allez au resto, vous pouvez inviter quelqu'un au resto. Si vous dites, ouais, mais je n'ai pas les moyens, bien, peut-être inviter la personne chez vous à un repas. Vous pouvez honorer la personne. Lorsqu'ils viennent, c'est pas, hey, salut. Peut-être vous allez dire, ah, bien, bienvenue chez nous, je suis content de te recevoir. Alléluia. On veut honorer, on veut avoir la culture du royaume de Dieu. Pourquoi? Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ, des dignitaires. Avez-vous réalisé ça? On veut marcher dans l'honneur. On a un invité qui arrive, admettons. Puis là, vous voyez, il y a 10 000 boîtes puis des valises comme ça. Qu'est-ce que l'honneur va faire? Un homme de Dieu arrive dans la maison de Dieu, on va aller l'aider. Alléluia! Je vais devenir son serviteur. Amen. Des fois, on peut avoir des personnes assignées, oui, certainement, mais qu'on puisse tous avoir la mentalité du royaume. Il y a des églises aux États-Unis où on a beaucoup enseigné sur l'honneur et il y a des médecins, des gens de profession, tu sais, des professionnels. Leur ministère, c'est dans la salle de bain, et puis eux, ils donnent des serviettes aux personnes pour s'essuyer les mains. Gloire à Dieu! Ils ont compris la loi de l'honneur. Quand on va semer de l'honneur, on va récolter de l'honneur. Amen! Des médecins, j'en ai connu un, il était à mon service, lui c'était un psychologue je pense, mais il était dans une église, puis il venait me servir pendant un repas. C'était un repas comme ça, puis il venait servir, puis avez-vous des besoins? Est-ce que je peux apporter votre Bible? Ça, c'était une autre chose que je n'ai pas de besoin. Moi, j'aime ça avoir ma Bible. Là. Mais j'étais dans une église où il y a un frère qui est venu me voir, il a dit, est-ce que je peux apporter votre Bible sur l'estrade? Puis là, j'ai dit, non, non, c'est correct. Là. Mais là, après, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il a dit, oh, pasteur, vous avez volé la récompense de ce frère-là. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et il a dit, ben lui, son privilège, c'est d'aller apporter votre Bible sur l'estrade, votre eau, et vous installer. Pour lui, c'est une façon d'honorer Dieu dans ce service-là. Mais moi, je ne réalisais pas ça. La prochaine fois, tiens, prends-la ma Bible. Je ne vais pas te voler ta bénédiction. Parce que lui, il ne faisait pas ça dans le sens, je veux servir l'homme. Ce n'est pas ça l'idée. C'est je veux servir Dieu en marchant dans l'honneur pour ceux que Dieu a établis. Voyez-vous? Mais tant et aussi longtemps qu'on n'est pas comme dans cette mentalité du royaume, on n'avance pas autant. Mais si dans l'Église, ici, on dit, on va marcher dans l'honneur, certainement concernant nos parents, dans le naturel, nos parents spirituels aussi, et nos frères et nos sœurs, mutuellement, on va toujours s'aimer et marcher dans l'honneur l'un avec l'autre. Mais quand on a une nouvelle personne, la personne aussi va ressentir l'amour et l'honneur pour elle-même. On va valoriser sa personne. Ça, c'est la mentalité ou la culture du royaume de Dieu. Si on veut gagner des âmes, alléluia, oui, on brille constamment dans notre vie, mais l'honneur aussi, ça devrait être dans notre vie, pas juste à l'église, mais chez Walmart, au Maxi, au Super C, Jean Coutu, dans votre cours, partout, l'honneur, l'honneur, l'honneur. Et là, si vous êtes là et vous dites, ben, je ne sais pas trop comment faire, priez et le Seigneur va vous montrer comment adopter sa vision des choses. Je vais terminer avec un verset, dans Ésaïe 57, verset 15. C'est dit, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Dans le psaume 34, verset 19, Bible du Sommeur, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Si on est là et on dit, Seigneur, moi, là, je veux tourner la page sur mon passé quand j'ai marché dans le déshonneur de mes leaders, de mes parents, de mes autorités spirituelles, de mes frères, de mes sœurs dans l'Église. Le déshonneur, je veux que ça quitte ma vie et mon cœur est brisé pour que vraiment je puisse changer à ce niveau-là. Et ce matin, mon cœur aussi, pour vous, c'est vraiment qu'on puisse dire, dans cette Église, c'est ça qu'on choisit, l'honneur. L'honneur pour notre Dieu en aimant les gens. Père éternel, je te remercie pour chaque personne ici. Je te remercie pour l'honneur que tu installes de plus en plus dans notre maison. L'honneur pour ton nom, l'honneur pour les dons dans cette maison, pour les frères, les sœurs. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous montres aussi comment honorer les gens qui sont loin de toi. Que les gens qui sont loin de toi puissent voir qu'on les aime véritablement, qu'on est prêt à s'investir dans leur vie d'une façon désintéressée. On est prêt à les servir, on est prêt à les aimer, on est prêt à les inviter pour manger avec nous, pour les entendre parler, pour entendre leur cœur. Seigneur, je prie que dans cette église, que nous puissions vraiment marcher dans l'honneur. Alléluia, et je prie que tu continues, Seigneur, à te révéler à mes frères et mes sœurs et montre-leur, Seigneur, les fois où ils sont tentés de marcher dans le déshonneur et montre-leur les façons qu'ils peuvent, comment ils peuvent faire pour marcher de plus en plus dans l'honneur. Oh, merci, Seigneur Dieu, parce que tu as pris la peine de nous enseigner sur cette loi spirituelle que nous adoptons ici à EVQ. Alléluia, on a pris au nom de Jésus. Amen. Et
merci
amen.
D'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.